Bienvenue dans cette cinquième émission de la saison 3 de Radio Conservatoire, une émission qui donne la parole aux élèves du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique pour faire entendre leur point de vue, leurs analyses sur les spectacles que nous allons voir ensemble pour parler des esthétiques, des écritures à l'œuvre sur les plateaux. Les élèves critiques de cette nouvelle émission de Radio Conservatoire sont Jean Minelli, Richard Le Gall et Gert van Erwijnen. Pour cette émission, nous avons choisi de parler du spectacle La Trilogie de la Vengeance, d'après John Ford, Thomas Middleton, William Shakespeare et Lope de Vega, texte et mise en scène de Simon Stone, un spectacle créé à l'Odéon, Théâtre de l'Europe, aux ateliers Berthier. Simon Stone construit son travail sur des adaptations. On l'a vu avec des spectacles précédents à partir d'Ibsen ou à partir de Tchekhov. Pour La Trilogie de la Vengeance, il a réuni 7 actrices et un acteur. Le thème est annoncé dans le titre. On sait qu'avec ce metteur en scène, le propos sera forcément ramené vers le contemporain, même si les sources, on en parlera aussi, proviennent du théâtre élisabétain. Un premier tour de table pour que vous nous disiez comment vous avez vécu le début du spectacle. C'est un moment qui est forcément important. Il offre une sorte de mise en condition du spectateur depuis son entrée dans la salle jusqu'au première réplique échangée sur le plateau, mais avec La Trilogie de la Vengeance, on est là face à un cas particulier. Alors, Richard, qu'est-ce qui se passe quand on arrive aux ateliers Berthier ?
Alors déjà, quand on arrive aux ateliers Berthier, on est pris dans la masse qui est assez gigantesque. Ce qu'il faut dire que le hall à Berthier est assez petit, alors que la capacité d'accueil pour les spectacles est assez grande, ce qui fait que, mais là ce n'est pas propre à ce spectacle, mais en général il faut quand même faire la queue parmi une foule assez gigantesque, ce qui peut être un peu désagréable. Là pour le coup, bon, on y était un petit peu habitué parce que c'est comme ça à chaque représentation. Et le truc c'est que comme il y avait 3 entractes, on en parlera tout à l'heure peut-être, c'est qu'on revenait dans cette masse énorme et assez suffocante 3 fois, ce qui n'était pas très agréable.
On va poursuivre avec Gert pour nous dire que si on fait la queue en serpentant, c'est parce qu'il n'y a qu'une seule entrée pour ce spectacle, La Trilogie de la Vengeance. Pourquoi ?
Il n'y a qu'une seule entrée parce qu'on est divisé en 3 petits groupes. On nous donne chacun un autocollant à l'entrée. En fait, on comprend plus tard que c'est un parcours que chaque spectateur va avoir singulier, enfin qu'il va partager avec le reste de sa salle, mais il y a 3 salles. Et du coup, chaque spectateur commence dans une salle différente, ce qui fait que... Enfin, c'est un peu itinérant. On traverse le Berthier qui a été réduit en 3 petites salles et non pas une grande, avec 3 spectacles, enfin des micro-spectacles qui se jouent simultanément.
Pas facile à expliquer quand même, mais chacun va avoir un autocollant selon qu'on est dans le groupe A, le groupe B, le groupe C. On va commencer par un espace, 50 minutes de jeu, le fameux entracte dont parlait Richard. On ressort, on revient, on est dans un autre espace, toujours avec son même groupe. On ressort, parce qu'il n'y a que 2 entractes, pas 3. Le troisième, on s'en va, on quitte Berthier normalement, sauf si on veut absolument y passer la nuit. Et donc, une troisième fois, on va entrer cette fois dans un troisième espace pour à nouveau 50 minutes de jeu. Mais ce sont les mêmes comédiens qui passent d'un plateau à un autre. On évoquera ça aussi. Jean, quel a été votre sentiment sur cette proposition inhabituelle, cette itinérance ?
Bah donc, même si moi aussi j'ai eu l'impression que c'était un peu suffocant, il y avait quand même une impression de mystère. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Je suis rentrée et il y avait ce truc de on va où, qu'est-ce qui se passe. Moi, j'avais rien lu, je savais rien. Donc, j'ai aimé. Et puis, j'ai beaucoup aimé la sensation de regarder comme être dans un parc d'attractions et de regarder les comédiens même un peu comme des bêtes, quoi, comme dans un zoo. Dans la première salle, il avait en fait un verre. Et donc, nous étions vraiment en train de regarder quelqu'un derrière une glace.
Une vitre.
Une vitre, voilà. Mmh. Et quand nous sommes rentrés, il y avait Adèle Exarchopoulos qui était en train de manger dans une robe de mariage blanche. Et nous sommes restés là 20 minutes avant que le spectacle a commencé. Et elle mangeait, elle fumait, elle buait. Et c'était vraiment comme regarder un lion dans une cage, quoi.
Alors du coup, est-ce que vous êtes imaginé, vous, à sa place à elle ? Parce que vous dites, vous étiez au zoo, donc c'était l'animal.
Bien sûr. Je me suis demandé, mais comment elle fait pour être si tranquille ? Elle avait l'air détendue et tout. Et même si on voyait qu'elle était dans un état, parce qu'il y avait une histoire, il y avait quelque chose qui était en train de se passer, mais en même temps... elle était détendue et voilà, naturelle.
On va revenir sur les espaces de jeu, sur l'écriture, sur la direction d'acteur, bien sûr, mais restons un instant quand même sur cette proposition. On se projette, disons, à la fin du spectacle. Quel sentiment ça vous a laissé, Richard, ce dispositif, trois espaces, deux entr'actes, une action simultanée dans les trois lieux?
En tout cas, je pense que l'intention était nouvelle et assez fraîche. Je ne savais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Je pense que mes camarades non plus.
Vous dites l'intention était, ce qui veut dire que, a posteriori, vous voyez que l'intention, mais peut-être pas la réussite de cette intention.
Bah, disons que le fait de naviguer entre les trois salles, enfin, je pense qu'il y avait une vraie volonté d'amener peut-être une déstructuration dans la narration, d'exploiter différentes sortes de rapports entre le public et la scène, puisque les trois espaces étaient un peu différents. Il y avait une bifrontale, une frontale et puis une disposition, disons, en équerre. Je ne sais pas comment le qualifier sinon. Et après, comme effectivement, donc, quand nous y sommes allés, il y avait quelques bugs techniques, peut-être quelques trucs. Tout à l'heure, j'ai parlé des entr'actes qui étaient un petit peu longs.
La machine n'était pas assez bien huilée.
Voilà, je ne sais pas encore à quoi véritablement ça pouvait servir. Quoi.
Gert, votre impression sur le dispositif?
Bah moi, j'étais comme Richard, je ne savais pas que c'était un spectacle avec trois espaces, donc on a découvert ça. Ce qui fait que quand on fait la première partie du spectacle, on n'a pas toutes les clés, donc on attend impatiemment la suite de l'épisode, si on peut dire. Et de fait, il y avait quelque chose d'assez neuf, d'assez nouveau, qui m'a pas mal intéressé dans la forme. Et après, je crois qu'on est un peu tous d'accord avec les autres que tout n'a pas fonctionné. Du coup, à la sortie du spectacle, on n'a toujours pas toutes les clés. J'avais l'impression, du coup, ça, c'était un peu frustrant. Mais en tout cas, cette façon de raconter, cette temporalité un peu particulière, elle m'a intéressé. Je trouvais ça plutôt bien pensé. Après, dans l'exécution, voilà, il y a eu des petits soucis. Et puis, même dans la pratique pour les comédiens, on sentait que c'était compliqué. Mais sur le principe, moi, je trouvais que c'était une manière de raconter... des histoires qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas pas au théâtre, plus dans d'autres médias.
Alors, à l'intérieur de ces boîtes à jouer, enfin, au moins deux sur trois, il y a des espaces clos ou semi-clos. Jean, vous avez évoqué le restaurant avec sa vitrine. Donc là, ça peut jouer dedans, mais aussi juste devant, comme sur le trottoir. Il y a une chambre d'hôtel qui est carrément elle, dans une boîte en verre, on va dire ça comme ça. Le troisième espace est celui d'un bureau qui... là, on est en bifrontal, nous les spectateurs, c'est presque comme un catwalk, mais qui serait plus large, selon où on se trouve dans la salle. On reviendra sur le jeu des acteurs dans un instant, mais du coup, ils ont quand même recours à des micros, à une sonorisation, dans tous les espaces, même si c'est complètement ouvert. Je voudrais votre sentiment sur cette scénographie, et puis sur l'impact que ça a pu avoir sur les spectateurs que vous êtes. Tiens, Gert, continuez, puisque vous aviez la parole.
Au niveau scénographie, moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est-à-dire qu'on est dans un théâtre vraiment de quatrième mur où les acteurs sont volontairement séparés du public, où, bah, comme vous l'avez dit, il y a deux sur trois des espaces sont séparés par des grandes vitres, d'où le son passe pas du tout. De fait, ils ont des micros. Et moi, je suis pas un grand fan du théâtre de quatrième mur. Je trouve toujours qu'il faut être extrêmement fort pour faire passer ça... de manière subtile, pour que moi je puisse rentrer dans l'histoire, j'ai besoin d'être connecté à un endroit autre que du voyeur, mais ça c'est moi après personnellement. De fait, voilà, j'ai eu du mal à rentrer dans cette scénographie qui au demeurant est très belle et hyper réaliste, donc plutôt intéressante à regarder à se déployer sur les trois espaces. Après, j'ai pas trouvé que ça apportait ça n'avait aucun support ça faisait pas monter les curseurs dans le spectacle.
Jean, votre sentiment sur ces espaces de jeu, sur ces décors?
Pour moi, je pense qu'il marchait bien, c'était intéressant. Et aussi, la machine, comme vous disiez, les gens qui rentraient, je n'ai pas trouvé que le fait qu'ils étaient quelquefois en retard de quelques instants était un problème. C'était plus pour moi les micros. Pour moi, les micros, c'est quelque chose que je trouve très difficile à accepter et à ne voir pas. Donc, même si j'ai trouvé que le décor était intéressant, les costumes étaient intéressants, changer de personnage de chaque acteur et pouvoir jouer n'importe quoi, et ça, c'est génial. Mais en même temps, ils avaient toujours quelque chose que nous amenait à voir qu'il y avait une, je sais pas, ça gâchait un peu le truc, quoi.
Le fait qu'il y ait le micro, en plus, dans ces espaces-là, on est forcément très, très près d'eux. Ce n'est pas les grands plateaux où on ne voit rien de loin. Là, on sait qu'il y a ces petits micros qui arrivent près de la bouche avec le petit sparadrap bien collé sur la joue. Mais là, on les voit beaucoup et ça vous gêne.
Oui, ouais, parce que, par exemple, avec l'autre spectacle que j'avais vu de Samson, les trois sœurs, c'était justement un grand plateau et nous étions loin. Et donc, ça c'était pas un problème. Mais comme nous étions si près... oui, ça se voyait beaucoup. Et en plus, il y a eu un moment où le micro, non, la radio, comment on appelle ça,
le boîtier HF.
Ça se voyait beaucoup parce que c'était la chemise de l'actrice, ça se voyait beaucoup, quoi. Et elle a essayé de le remettre en place, mais elle pouvait pas. Donc c'était un élément sur scène que personne pouvait adresser, mais c'était là quand même. Donc ouais, je pense que ça, c'était un peu... Donc, il y avait des choses très intéressantes, mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui n'ont pas marché. Voilà, ouais.
Richard ?
De la même façon, je comprends aussi l'intention, sans doute, qu'il y a derrière ce dispositif en verre, parler à travers un micro, etc., un peu pour être considéré comme une petite bête dans une cage dont le spectateur pourrait rire, contempler, voir un peu sans être vu. Mais alors, en plus, comme Gerd, je ne suis pas très fan de ce dispositif non plus, parce que je trouve qu'au contraire, en fait, dans ce côté, le spectateur regarde et l'acteur est là pour produire quelque chose, pour délivrer une performance qui permette... au public d'entrer en communion avec lui. Ah, précisément, cette chose du verre et cette chose du micro, c'était un peu comme si l'acteur s'évadait de la salle et ainsi n'entrait plus en communion avec le public qui, à mon avis, doit quand même entretenir une sorte de lien avec l'acteur. Le propre de l'acteur, justement, dans cette configuration-là, dans ce qu'il a de plus performatif, c'est aussi sa conscience du public, quoi. Et donc le fait d'avoir des micros et d'être cloisonné comme ça, à mon avis, détruisait un petit peu ce phénomène-là.
Oui, parce que du coup, il y a pas mal de problèmes ou de contradictions dans la proposition, parce qu'il y a cette écriture de plateau dont on va parler maintenant, qui est censée amener un certain naturalisme. Il y a ces décors qui sont hyper réalistes, on en a déjà parlé. Et en même temps, il y a beaucoup de filtres, la sonorisation, ce système de boîte à jouer. Du coup, ça vous a tenu à distance, Gert, est-ce que ça a été votre problème pour ce spectacle?
L'un des problèmes, oui, sans doute. En ce qui concerne l'écriture, moi, j'ai trouvé ça vraiment très mal écrit, objectivement. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans la fiction. De fait, la forme n'a pas aidé. En fait, je n'ai pas compris pourquoi, pour parler des sujets qu'il avait choisis et des auteurs qui étaient proposés dans le programme, il n'y en avait aucun qu'on retrouve dans la pièce. Et autant, pour d'autres spectacles qu'il a pu faire, on voyait qu'il avait repris des trames, etc. Là, je ne reconnaissais pas les pièces de Middleton, de Shakespeare, de John Ford, etc. Donc, je n'ai pas très bien compris le propos. Donc, l'écriture de plateau, là, en l'occurrence, je ne risquais pas de rentrer dedans, quoi. Enfin, vraiment, je n'ai pas trouvé d'intérêt à ce texte. Du coup,
pour vous, il voulait parler de quoi dans ce spectacle?
Ce qui est compliqué, c'est que si je m'en fie que au spectacle, je ne peux pas comprendre. Et quand je lis le programme et l'intention sur une pièce féministe qui parlerait de la prise de pouvoir des femmes sur l'impunité des hommes, etc., moi, je n'ai pas vu ça du tout dans... Enfin, même le propos lui-même dans le programme m'a pas paru extrêmement pertinent. Après, il se trouve qu'en plus, ce n'est pas lui qui l'a écrit, le programme, donc c'est encore plus compliqué. Mais voilà, moi, je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. D'où mon incompréhension face au spectacle, à l'histoire, au récit, à le propos.
Richard, Jean, vous aviez lu, vous, le petit texte du programme avant la représentation ou à l'entracte, ou Jean?
Non.
Vous l'avez lu après, non, du coup?
Oui, mais...
Mais alors, est-ce que vous avez compris de quoi il voulait parler? Pour vous, cette pièce, elle vous racontait quoi à l'issue de la représentation?
Je suis d'accord avec Kirt là, parce que je pense que même s'il y avait eu plus de, des erreurs, de, des trucs qui ne marchaient pas avec le décor et tout, mais il y avait vraiment quelque chose de puissant dedans et que nous touchait, nous, on se serait même pas rendu compte que tout ça était en train de se passer. Mais en fait, le problème était que je pense que ce n'était pas assez clair, justement, qu'est-ce qu'il voulait dire, pourquoi il sentait la nécessité de faire ce spectacle et tout. Je pense que... Ouais, par contre, j'ai remarqué que pour les femmes, c'était intéressant. Il y avait vraiment beaucoup de rôles différents. Et j'ai pas vu les, comment dire, les stéréotypes qu'on voit au théâtre quelquefois et qui, pour les femmes, sont gênants et compliqués. Et on n'aime pas voir ça. Donc, de ce côté-là, j'ai beaucoup aimé. En plus, même avec les, comment dire, les backgrounds de tout le monde, il y avait des comédiennes noires qui jouaient les sœurs des blancs et tout. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que je pense que le futur des théâtres, c'est justement ça, de laisser que tout le monde peut apporter sa sensibilité à une société complexe et qui est en train de changer et tout. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, je pense que Simonson est toujours très à l'écoute de ça et je pense qu'il faut, il faut dire que ça, c'est génial. En même temps, je me demande si peut-être c'est pas assez de faire une pièce sur ça et c'est pas assez. Et donc, il y avait vraiment quelque chose qui manquait pour moi et en fait, ça m'a pas touchée. Ça m'a amusée et... Mais en même temps, j'ai eu le temps de me rendre compte qu'il faisait trop chaud, que j'étais en train de transpirer parce que la salle était trop petite et tout, et si j'étais vraiment concentrée sur le spectacle, j'aurais même pas eu le temps de... Voilà, oui.
Richard, sur ce que vous a raconté cette pièce et sur le texte, donc.
Oui, ben, d'abord, je rejoins assez mes camarades sur mon incompréhension par rapport au texte proposé. Alors moi non plus, j'avais pas lu le booklet avant, enfin, j'avais juste regardé les quelques auteurs, donc Shakespeare, Middleton, etc., dont il était question, dont Simonson apparemment avait fait une réécriture. Alors, ce sont des pièces alors, que je ne connaissais pas toutes, mais donc j'imagine effectivement, hein, que comme Geert et Jean, que peut-être il s'agissait de mettre en scène la, je sais pas, une certaine volatilité du sentiment amoureux dans le temps, etc., de l'impunité des hommes sur ce sujet. Mais le truc, c'est que évoquer, dès le début, avant même que la pièce commence, dans ce feuillet-là, Shakespeare et d'autres grands auteurs, et ensuite avoir une narration qui finalement est somme toute assez banal, c'était en l'occurrence Shakespeare, mais ça aurait pu, à mon avis, être un autre auteur aussi. C'est-à-dire que on avait comme l'impression que c'était ce sont des sortes de mythes universels finalement qui sont repris dans une pléthore de pièces. Alors pourquoi évoquer eux plutôt que d'autres, à mon avis, du coup, c'était pas vraiment une note d'intention que de les marquer dans son feuillet, mais presque un mot d'excuse, quoi, pour ce qui allait suivre.
Oui, il aurait pu mettre d'après Échille, c'était pareil.
Bah oui, exactement. Mmh. Oui.
Mais on reviendra sur l'histoire, sur la façon dont justement la narration est utilisée. Mais pour continuer sur la question de l'écriture de plateau, et avant de revenir vraiment sur la trilogie de la vengeance, est-ce que vous, en tant que comédien, est-ce que ça vous est déjà arrivé ou est-ce que vous avez envie de participer à une création qui inclut justement une écriture de plateau dans laquelle vous amenez des choses, ou est-ce que vous êtes plutôt tenant d'un texte qui existe préalablement, sur lequel travailler? Est-ce que vous avez alors des expériences déjà d'écriture de plateau?
Bah, ça fait un petit moment, mais je pense que... avec ma mère à Milan, on a toujours travaillé comme ça et elle est un peu le dramaturge, mais après tout le monde partage ses trucs et on écrivait ensemble on a, par exemple, on avait travaillé sur Midsummer Night's Dream,
Songe d'une nuit d'été,
voilà, et en fait on a fini par parler de toutes les manifestations qui étaient en train d'avenir à Milan, des étudiants et tout, et c'est vraiment quelque chose d'organique, ça sortait de le texte, on a trouvé des choses qui résonnaient avec nous et nous sommes allés avec ça Et chaque scène était construite sur ça, puis on ajoutait des personnages. C'était un peu une interprétation du texte. En fait, on ne l'a pas appelé...
Songe de nuit d'été.
Voilà, mais seulement songe et quelque chose. Mmh. Et donc, je pense que c'est très intéressant de travailler comme ça, mais en même temps, dans ce cas-là, j'ai pas vraiment capté pourquoi c'était important d'utiliser ce texte. C'était quoi dans ces textes, je pense qu'il n'y avait pas besoin en fait d'utiliser les noms de quelqu'un de passé pour écrire quelque chose de bien, d'intéressant. En fait, peut-être ça aurait été mieux s'il avait plus de liberté, je ne sais pas. Donc voilà.
Est-ce que Richard, Gert, ça vous fait envie, une expérience d'écriture de plateau?
Personnellement, moi, à part quelques petits projets d'école comme ça où on pouvait partir d'impro pour ensuite fixer quelque chose, j'ai jamais non plus fait d'écriture de plateau, en tout cas pas qu'il se soit, qu'on ait ensuite produit en public. Et j'avoue que personnellement, ça me fait pas trop envie, mais ça c'est vraiment, comme dit Maupassant, une querelle de tempérament. C'est pas parce que personnellement, moi ce qui m'intéresse aussi dans le théâtre, c'est la prise en charge de l'objet texte. De porter une écriture très particulière et qui soit homogène quoi, pour différents personnages. Parce que le personnage, moi je le considère essentiellement comme un élément textuel. Quand je prends un texte, je ne me dis pas bah, ce personnage-là est intéressant, je me dis plus ce que dit là cet élément textuel, même si bon, je ne le formule pas exactement comme ça dans ma tête, bah, ça j'ai envie de le dire et par conséquent j'ai envie de travailler ce personnage-là. Donc une écriture de plateau, je trouve que ça, à mon avis ça peut être intéressant peut-être pour exploiter les différentes singularités au mieux des différents comédiens, mais encore une fois je pense qu'il y a aussi une liberté assez grande dans le fait de s'approprier un texte déjà existant avec une écriture forte et homogène.
Je suis d'accord avec toi. En même temps, je pense qu'une des choses plus belles de la littérature théâtrale est qu'il change par rapport à nous et de réinterpréter, ça nous fait réfléchir sur comment il change pour nous. Mais bien sûr qu'une fois qu'on fait ça, on ne peut pas dire qu'on a mis en scène ce texte-là. On a juste pris des éléments. Je pense que c'est intéressant. Il ne faut surtout pas oublier qu'il faut aussi prendre le texte et le respecter, mais je pense que c'est intéressant. Voilà.
Gert,
moi je voulais juste rebondir sur ce qu'avait dit Richard, parce qu'on est un peu d'accord. Moi j'ai fait une création de plateau à la sortie d'école Florent, au Bouffe du Nord qui plus est, et c'était un spectacle à base d'improvisation qu'on a ensuite filmé et qu'on réécrivait par-dessus, etc. Et je sais que moi en tant qu'acteur, alors paraît-il que le spectacle a bien marché, les gens ont plutôt aimé, mais merci Richard.
Richard confirme.
Mais moi, en tant qu'acteur, je n'ai pas été toujours très heureux de cette façon de faire. Parce que, comme Richard, je m'intéresse beaucoup à un langage, à une langue, un texte préétabli et une partition à laquelle je me mettrais, auquel je me mettrais au service. Plutôt que. Et je sais que, bon, si Claire Lannes m'entend, elle va me tuer, mais je ne suis pas certain que les acteurs soient des créateurs de pensée ou d'objets textes, non pas qu'ils ne savent pas écrire, mais l'endroit du plateau, je ne suis pas sûr que ce soit un endroit de création de pensée. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis.
C'est très clair.
Que je crois, ça ne veut pas dire que les acteurs ne peuvent pas écrire, mais qu'il y a un endroit où il y a toujours... l'acteur, il est tellement dans plein de mouvements différents, il y a tellement de raisons qu'il pousse à agir sur un plateau qui ne sont pas forcément celles qui construisent, qui sont aptes à construire une pièce... de A à Z, en mon sens, c'est mon. J'ai toujours eu tous les spectacles que j'ai vus, il y a toujours un moment donné où l'objet texte me manque, où je sens qu'il y a que ce qui n'est pas d'abouti, il y a trop de voix ensemble, souvent, qui me. Je sais pas. C'est moi, hein. Mais comme dit Richard, c'est.
Mais ne vous en excusez pas. Il est certain que Claire Lannes d'Arcueil vous écoute, ça c'est sûr, parce que c'est une fidèle auditrice, mais je pense qu'elle est quand même davantage pour la liberté d'expression, de pensée et de ressenti. Donc vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Allez, Richard.
Enfin, je suis absolument d'accord avec Geert. Et c'est vrai que peut-être, juste pour préciser ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est vrai que l'avantage aussi, quand il y a juste une personne qui mène une écriture du début à son terme, c'est que ça peut vraiment faire théâtre. Quoi, comme je crois que c'était dans la poétique... d'Aristote, Aristote dit que le théâtre, c'est quand il y a différents éléments parmi lesquels une narration navigue, et ensuite on arrive à un point qui était l'unique point dans lequel on pouvait arriver. Et peut-être qu'avec l'écriture de Platon, c'est quelque chose qui est un peu plus difficile. Et Dieu sait à quel point je suis aristotélicien.
Jean.
Je pense que vous avez raison d'un côté, parce que le théâtre comme ça, il faut qu'il existe, mais en même temps, ça n'empêche pas que la variété est importante. Et donc, je pense que il faut pas. Je pense pas que le théâtre est seulement autour d'une figure qui décide et qui a la situation en main et tout. Je pense qu'à la fois, c'est très intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut construire dans un groupe et ensemble et tout. Et ça peut apporter des choses magnifiques. Et surtout, capturer, comment dire, la vie, non ? Comment nous sommes les uns entre les autres et tout. Et laisser ça rentrer dans le spectacle. Je pense peut-être plus qu'avec un texte fixe et tout. Mais il ne faut surtout pas penser que, c'est mon avis, que l'un est supérieur à l'autre. Je pense que ça serait une erreur. Voilà.
Justement, peut-être que ça nous permet de revenir au plus près de la trilogie de la vengeance, puisqu'on a parlé du dispositif, on a parlé des décors, on a parlé de l'écriture. C'est logique qu'on aborde dans cette émission de Radio Conservatoire la question de la direction d'acteur, du style de jeu. Et ça prolonge d'une certaine façon la discussion qu'on vient d'entamer, parce que ces questions-là, elles ont fait débat lorsqu'on a préparé cette émission. Nécessité de diversité, nécessité de recherche, mais... Gert, je crois que c'était un bouc qui était peut-être le plus virulent sur cette dimension-là, parce que vous disiez, je vous cite approximativement, mais dans la trilogie de la vengeance, tout est fait pour qu'on soit des consommateurs. Ce qui est un terme assez violent, évidemment, hein, par rapport à spectateur.
Oui, sorti maintenant, quand je l'entends comme ça, ça me fait un peu... mais quoi que, je n'en démords pas, j'assumerai ma position. Non, je trouve que... C'est, je disais ça plus par rapport à la forme qui se rapprochait beaucoup d'une série qu'on pourrait regarder chez soi. Il y avait un endroit où on nous mettait bien confortablement des petits épisodes de 50 minutes et il fallait surtout pas décrocher. Tout était fait dans l'écriture pour que, à toutes les 5 minutes, il y ait des nouvelles informations qui nous soient données bien croustillantes pour qu'on soit rattaché à la narration. Les fameux cliffhangers de l'écriture un peu scénaristique américaine. Qui marche, on sait qu'elle marche. Enfin, quand on a les clés de l'écriture, de scénographie, on sait tout ça. Et donc, c'est facile de happer les gens, surtout avec un décor, avec des acteurs quand même qui font ce qu'ils peuvent, etc. Donc, tout est fait pour qu'on soit happé dans l'histoire. Mais quelle histoire ? Quand j'en sors, j'ai l'impression d'avoir consommé 3 heures de spectacle plutôt bien ficelé, quoique techniquement encore il y avait des soucis, mais je veux dire, c'est un produit quoi qu'on me vend et j'aime pas trop ça.
Richard.
Oui, parce qu'en fait on avait évoqué la dernière fois cette question par rapport au jeu des acteurs qui assez naturaliste et donc proche de ce qu'on pourrait voir sur un écran, que ce soit au cinéma, sur un écran d'ordinateur ou à la télé, rendrait supposément plus accessible à une part de la population qui peut-être va moins au théâtre, et notamment parmi les jeunes, parce qu'il est vrai qu'il y avait pas mal de jeunes dans les salles quand on y est allé. Et c'est là qu'il y avait notre petit point de désaccord. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui, on ne peut que le supposer, évidemment, on n'a pas parlé avec eux, qui n'allaient pas souvent au théâtre, qui sont en sont ressortis avec une bonne mine. Ils avaient l'air d'avoir plutôt apprécié. Et moi, je pense que surtout qu'ils étaient un peu réconfortés d'avoir vu quelque chose et qui leur ait rappelé ce à quoi ils sont habitués. Ce que je ne trouve pas fondamentalement enthousiasmant, parce que je ne pense pas que ça veuille dire que cette population-là va être incitée à retourner au théâtre. À mon avis, c'est justement en misant sur tout ce que le théâtre peut et que ne peut pas les autres médias, disons audiovisuels, qu'ils sont susceptibles d'être bouleversés et d'ensuite retourner au théâtre parce que précisément ce qu'ils voient là, ça ne peut arriver qu'au théâtre. Et donc ça passe aussi par... Donc, tout à l'heure on parlait d'une communion entre le public et les acteurs qui peut aussi passer donc par un jeu un peu plus distancié, en tout cas un jeu qui prend en charge la parole de l'auteur de manière peut-être moins naturaliste mais aussi plus intime, plus viscérale. Bref, qu'il y ait du théâtre et non une sorte, alors je le dis assez vulgairement, une sorte de simulacre de jeu naturaliste audiovisuel. Quoi.
Jean, votre sentiment sur cette question?
Et voilà, c'est là que nous ne sommes pas d'accord. Et parce que, en fait, moi je pense que c'est compliqué de défendre ça parce que je ne pense pas que c'était réussi dans ce spectacle qu'on a vu, mais c'était quand même intéressant de les voir rechercher quelque chose que je pense qu'il faut chercher. Parce que justement, le théâtre a toujours changé par rapport à la société qui changeait, à l'histoire qui changeait, déjà parlé de ça. Et en plus, j'ai pensé à un autre exemple là, dans la tragédie grecque, il y avait Eschylo, comment vous dites ça,
Eschylus,
voilà, qui faisait les tragédies d'une façon, et tout le monde adorait ça. Et puis quand, Euripides est arrivé après. Et tout le monde le critiquait, c'est la décadence, tu vois, et on déteste ça, et c'est pas sacré comme l'autre, voilà. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste écrit par rapport à les choses qui changeaient autour de lui. Et c'était nécessaire de faire ça. Et donc, attends, je pense que quand on vit dans un monde où l'audiovisuel est partout, on a la télé-réalité, tout le monde regarde des films, il y a le médium de le film qui a pris une partie très importante dans la vie et dans l'art, on peut pas faire semblant que c'est pas là. Et donc, comme notre façon de se rapprocher à la réalité a changé, le théâtre aussi doit changer un peu. Il doit pas changer, mais il doit prendre en compte ça. Il doit essayer de le considérer.
Richard,
bien, je suis absolument d'accord avec tout ce que tu viens de dire, mais ce n'était pas mon propos.
Ah bon?
Parce que tu dis que le théâtre doit changer en fonction de son temps, etc. Et je pense justement, c'est la raison pour laquelle je disais ça. Moi, je défends absolument pas un classicisme qui voudrait qu'on reste sur les codes du théâtre tels qu'ils ont été durant le siècle passé. Évidemment, le théâtre est toujours changeant. Et c'est la raison pour laquelle justement, je voudrais qu'il y ait une sorte de radicalisation, oula, c'est peut-être un petit peu fort, mais d'aller un petit peu plus profondément dans cette différenciation entre ce que peut l'audiovisuel qui effectivement arrive à grands pas sur les esprits et le théâtre qui ne doit pas, à mon avis, devenir une sorte d'audiovisuel en... un peu moins bien, autant miser sur ce que peut chaque art, chaque média, et aller à fond là-dedans. Parce que sinon, pourquoi aller au théâtre si l'on peut rester chez soi devant un écran comme ça, sans, en plus en payant un peu moins cher?
Gert?
Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Richard. C'est-à-dire que moi, par rapport au code de jeu que vous évoquiez, c'est pas tant un théâtre naturaliste que me dérangerait, comme les micros, je suis pas foncièrement contre s'il s'agit de faire entendre des gens à travers une vitre et qu'ils ont besoin du micro dans la partie, par exemple, du bureau parce qu'il y a une voix off, et si lui est en voix off parce qu'elle est préenregistrée, ça, les autres doivent l'être aussi.
Mais pas seulement pour les vitres, quand même, parce que vous qui êtes comme moi un grand fan de Ivo Vanov, ça permet aussi une qualité
voilà,
de jeu,
oui, bien sûr,
murmuré, et c'est ça là permet que, un type de jeu autre.
Voilà, et là je suis d'accord avec Richard, c'est que ça permet, enfin, tout était fait pour permettre une grande intimité et un théâtre différent qui pourrait se rapprocher du jeu télé, mais avec le vertige du théâtre, c'est-à-dire que ça se passe en direct devant nos yeux, ce que le cinéma ou la télé n'aurait jamais. Or, je trouve tout ce qui a été misé là-dessus est raté, c'est-à-dire que techniquement, oui, on peut reproduire un décor naturaliste, on peut jouer comme à la télé, mais quelque chose dans le spectacle n'a pas décollé. J'ai trouvé que ces micros ne doivent pas être pour jouer comme dans la télé. C'est pour permettre aux acteurs de faire autre chose que, comme on dit, des codes de jeu qui sont vieux. Enfin, vieux, qui sont différents. Et là, je trouvais que ce n'était pas le cas. Je trouvais que l'arrivée de ces micros ont fait diminuer le spectre à tous les acteurs qui parlaient tous un peu comme ça. Là, forcément, je suis juste. Donc, je ne me risque pas trop, je ne me mouille pas trop. Il y a un truc où tous les acteurs étaient dans un espèce de confort de jeu tout à fait mondain, truc très, enfin, rien, pas d'engagement physique, pas de prise de risque. Donc, me dit le risque qui aurait dû être pris, c'est de dire, bah, on va jouer naturaliste, on va jouer avec ce grand décor réaliste, enfin, hyper réaliste, mais on va y injecter du vibrant, du théâtre, quoi, dans un truc qui pourrait ressembler à du cinéma. Et je trouve qu'il n'y avait rien de vibrant dans ce qui a été proposé.
C'est pour ça que, en fait, c'est compliqué de parler de ce spectacle en défendant ce que je suis en train de dire, parce que...
Là, le débat s'est élargi, là. On peut prendre d'autres exemples et pas rester sur la trilogie.
Ouais. Mais non, je pense que, en fait, oui, comme tu dis, c'est quelque chose qui est en train de passer devant nous, et donc ça change tout, et ça sera jamais comme être devant un écran. Je pense pas qu'il faut pas s'inquiéter. Personne va penser... Ah,
ils sont toujours des êtres vivants face à d'autres êtres vivants.
C'est différent. Et... En plus, je trouve que c'est intéressant. Et moi, j'ai un peu du mal, en tant qu'actrice, par exemple, à parler très fort. On a vu ça dans nos cours et tout. Ou de me abandonner à des trucs que je faisais jamais dans la réalité. Je ne ferais jamais dans la réalité. Et donc, pour moi, mon instinct, my instinct, en tant que comédienne, c'est de faire exactement ce que je ferais dans cette situation, dans la réalité. Et donc, pour moi, ce jeu-là est plus proche de moi et comment je ressens le jeu et tout. Mais en même temps, je comprends ce que tu veux dire. Ils n'avaient pas des moments où nous étions vraiment inquiets pour eux, où on a vraiment cru à des trucs qui étaient en train de se passer. Et ça manquait, ça. Donc, oui, je comprends. Mais je ne pense pas que c'est forcément quelque chose que va toujours manquer quand on fait ça. En plus, comme j'avais dit l'autre fois, je pense que il ne faut pas penser que le cinéma est forcément le lieu de la réalité et le naturalisme seulement, et le théâtre doit être forcément l'inverse. Parce qu'il y a plein de réalisateurs magnifiques qui ont vraiment porté à l'écran quelque chose de très, comment dire, pas naturel. Comme par exemple Pasolini, qui ne voulait pas même des vrais acteurs, parce qu'il ne voulait pas qu'ils peuvent vraiment jouer et faire semblant sans qu'on se rende compte. Ils mettaient des gens devant la caméra qui n'étaient pas naturels du tout. Et en fait, c'était un effet et un style magnifique qui marchait. Et magnifiquement, en plus, lui, il adore le théâtre. Il avait plein de trucs avec Médéa et tout ça. Et justement, la tragédie. Et je pense que comme le cinéma peut faire ça, le théâtre peut aussi se rapprocher de le cinéma parce qu'ils sont très proches, quoi. Et je pense que ce que Simon Sol est en train de faire et de chercher est très beau. Et si un jour on va voir un spectacle où il y a vraiment quelque chose qui nous touche, quelque chose de puissant et de vrai et tout, avec style-là, ça va être super. Mais je suis d'accord que là, c'est pas encore là, quoi.
Mais pour revenir à la question de l'accessibilité ou de dire on va faire des spectacles où les jeunes se sentiront bien, on a quand même un certain nombre de metteurs en scène, de créateurs qui travaillent sur ces choses-là depuis un certain temps. On a déjà fait une émission, je crois, je suis même sûr, sur un spectacle de Vincent Macaigne où il y a quand même beaucoup, beaucoup de public jeune parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont aller à la fête, qu'ils peuvent crier, que ça va chanter, qu'il y aura de la musique fort et que ça va être un moment sympa. Bon, moi, j'ai déjà dit que je détestais ça, mais ça, c'est... là aussi, c'est une affaire personnelle. Il y a Thomas Joly qui fait des spectacles. Alors là, raconte des histoires et puis il fait des shows, des sons et lumières, un peu Mylène Farmer, ça plaît aussi, pas à moi. Et puis, on a parlé aussi dans ces émissions de Julien Gosselin. On n'a pas parlé encore, on n'a pas eu l'occasion de faire une radio conservatoire sur Romeo Castellucci, qui est sans doute le plus passionnant à mes yeux, qui eux aussi, Gosselin et Castellucci, peuvent se servir de toutes les technologies vraiment les plus modernes pour amener autrement du son, de l'image, de la lumière, des effets. Donc là, il ne s'agit pas de trouver ou retrouver une pureté originelle du théâtre qui n'a jamais existé, mais se servir de l'époque. C'est-à-dire des outils de l'époque, ça, vous n'êtes pas contre, Richard ? Ou si, quand même ?
Non, alors je ne suis pas du tout contre. Au contraire, je pense effectivement que le théâtre doit vivre avec son temps. Et je pense que d'ailleurs, le mot théâtre est suffisamment polysémique pour qu'on puisse considérer que faire théâtre, c'est aussi avoir une expérience sociale. Et donc, en tant qu'expérience sociale, évidemment, ça ne peut qu'advenir hic et nunc, et donc avec toutes les technologies qui sont à notre disposition. Pour le coup, j'ai déjà évoqué les premiers spectacles de Julien Gosselin, et notamment les particules élémentaires, j'avais adoré. J'ai trouvé ça vraiment bluffant, ces jeux de néons. Même la façon dont il utilisait les caméras et les micros sur scène, je trouvais ça absolument génial. Bon, maintenant, je trouve qu'il a juste trouvé son fil et se contente peut-être un petit peu de le suivre. Bon, ça, c'est vraiment ça, mais voilà.
On peut ne pas être d'accord avec vous, mais bon.
Exactement. Voilà. Mais simplement aussi, je pense effectivement, pour chaque période, il y a toujours, que ce soit dans le théâtre ou dans les autres arts, en littérature, etc., il y a toujours un certain tropisme dans lequel s'orientent les créations. Mais effectivement, l'important, c'est aussi d'avoir beaucoup de diversité. C'est aussi le fait d'avoir un choix assez étendu qui donnera envie au public les moins avertis de venir au théâtre. Oui.
Gert.
Non, je suis d'accord. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas contre la modernité du tout. Enfin, je trouve même que c'est normal qu'on s'accompagne avec de la vidéo, du son, de la lumière, tout ce qu'on peut imaginer pour faire une création. Mais je dis juste que ça ne suffit pas. Et que c'est là parce qu'on se rapproche des codes de ce que pourrait faire le cinéma, que ça va avoir une valeur théâtrale. Sauf que les arts ont des points forts chacun à défendre, et que quelque part, en mêlant tout le temps tous les styles d'art, des fois, moi, en tant que spectateur, j'ai l'impression d'être perdu dans un aspect de melting pot d'art où je ne sais pas trop ce que je regarde. Donc ça, en l'occurrence, c'est pour la trilogie de la vengeance que je dis ça, mais sinon, parce qu'il pourrait rendre accessible, quand je vois un spectacle sur l'affiche, enfin, quand je vois les gens rentrer dans la salle et que je vois qu'il y a plein de jeunes et que sur l'affiche, je vois qu'il y a marqué John Ford, Middleton et tout, je me dis, putain, c'est intéressant, c'est pas mal. La seule chose qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression que l'auteur n'a pas été éclairé. Un grand metteur en scène, il pourrait rendre accessible par son regard, par un regard neuf, par un regard qui serait accessible, sans trahir la pièce originale. Et là, j'ai clairement senti que... Enfin, ça me fait de la peine de me dire que Shakespeare n'est pas accessible pour ces jeunes gens, et du coup, on va leur servir une série B théâtrale, et ils vont se dire, ah, j'ai vu Shakespeare. Et ça me fait beaucoup de peine.
Et quand c'est Thomas Joly qui fait Henri VI, vous trouvez qu'ils ont entendu Shakespeare ?
Ils ont entendu le texte, mais enfin non, moi j'ai pas du tout aimé. Enfin, j'ai pas vu le Henri VI, mais j'ai vu le Richard III qui m'avait beaucoup déplu. Mais ça me fait tout. Oui, voilà, je dis pas. Bah, en fait, il faudrait un grand metteur en scène qui puisse et le rendre accessible et ne pas le trahir. Mais ça, c'est tâche fort difficile. Donc, on attend l'arrivée d'un grand metteur en scène pour faire ça.
On termine toujours nos émissions de Radio Conservatoire en vous demandant ce qu'il vous reste du spectacle dont on vient de parler, de quelle façon il remet en question votre rapport au théâtre. Ce sont des choses qu'on a déjà un peu évoquées dans notre discussion, mais vraiment, au moment de la sortie et puis un peu ce qui trotte dans la tête depuis, Richard.
Vraiment, quand je suis sorti de ce spectacle, pardon, la première chose que j'ai faite dans ma ligne de tram, c'était me remettre en texte la scène de Molière que j'allais travailler le lendemain avec Gilles David. Et donc, en fait, ce que j'ai vraiment ressenti, c'est une sorte d'élation comme ça, de songer que le théâtre, c'est aussi un texte et une langue à s'accaparer avec beaucoup de jubilation. Oui, c'est ça, la jubilation de savoir qu'il y avait ce théâtre donc, que je venais de voir, mais aussi un autre dans lequel je me sentais peut-être pas plus en confort, mais plus en accord, et que ça réaffirmait ma conviction que c'est dans ce théâtre-là que je voulais aller.
Jean ?
Moi, j'étais pas trop contente en sortant, et j'étais très fatiguée et un peu épuisée physiquement aussi, parce qu'il faisait très chaud, quoi. Mais après, en fait, en parlant avec ma famille et tout, en racontant, en pensant à ce que j'avais vu, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu quelque chose qui bouge les choses en avant. A step de la recherche de quelque chose d'intéressant.
Un palier. Ouais. Un pas en avant, en tout cas.
Ouais. Et je pense que j'aime toujours voir comme les artistes, quelquefois, ils peuvent voir au-delà de les choses plus plus proches ou avec lesquels ils ont grandi et essayer de faire quelque chose de vraiment nouveau. Et quand j'étais en train de raconter justement à ma mère comment il se passait, comment c'était construit, les trucs de les trois salles et tout, et j'étais contente de décrire ça. C'était intéressant, c'était quelque chose de spécial, voilà, d'unique. Et justement du théâtre, quelque chose qui arrive devant toi et se déroule comme toi, comme ça, et avec spontanéité et tout. Et donc voilà, je pense que même si je n'ai pas aimé, je trouve que c'était une expérience intéressante. Voilà.
Gert.
Moi, je n'ai pas du tout trouvé que c'était un palier vers l'avant, au contraire. Mais ça m'a désespéré, cette histoire, en voyant les mines réjouies des lycéens sortir en disant qu'ils avaient vu du théâtre. Et je me dis, bah, dis donc. Enfin, ça, maintenant, c'est un spectacle qui m'a plutôt attristé. J'ai trouvé que même si l'effort de la forme était plutôt joli, enfin était plutôt une belle idée, plutôt que ça suffit pas à faire un spectacle, et c'est ça en fait, c'est plutôt ça que je reproche à toujours utiliser les moyens modernes, c'est qu'on se dit on met tout en œuvre pour faire théâtre, mais le fond, j'ai l'impression qu'il se vide de plus en plus et que ça, enfin que les auteurs sont bafouillés, et à force de vouloir faire du théâtre moderne, on fait des choses extrêmement ringardes où on n'entend plus les textes et on se sert des textes pour raconter son histoire sur le monde. La preuve, le programme, il raconte pas du tout ce qu'a raconte la pièce. Enfin, espèce de metteurs en scène qui se font plaisir. J'ai horreur de ça, j'aime pas ça, ça m'a déprimé.
Mais pour relancer un instant la discussion, alors, est-ce que vous préférez pas quand même quelqu'un qui cherche, mais quitte à se planter, que quelqu'un qui va vous proposer la énième version d'un Shakespeare pas très bien joué, avec pas grand point de vue, mais traditionnel, on va dire.
Non, je suis d'accord. Après, je me méfie toujours des formes nouvelles de Treplev, si on veut. Je me demande toujours, je ne suis pas un grand, grand fan, je préfère une...
Mais s'il n'y avait pas ces gens-là, le théâtre, il se jouerait encore dans des amphithéâtres
non, mais c'est pour ça,
en plein air, quoi.
Non, je crois qu'il y a des spectacles qui peuvent manier les deux. Je pense vraiment qu'on n'est pas obligé de faire que du théâtre bien joué, avec des lectures plutôt classiques, comme peuvent le faire des grands metteurs en scène. D'ailleurs, je pense à Alain Françon qui aime les textes et qui nous propose rarement des choses extrêmement révolutionnaires, mais il a un tel sens des lectures. Je me sens plus proche de cette famille-là et d'essayer là-dedans, dans cette fidélité-là, de voir ce qui peut résonner aujourd'hui, plutôt que de dire je vais prendre cette pièce-là et elle va résonner aujourd'hui. Et après, ça, je me méfie juste de la démarche, en fait. Après, non, il faut des gens pour essayer. C'est pour ça que j'en veux pas personnellement à Samuel Stone, qui au demeurant a fait des choses très très belles. Mais
ça va le rassurer de le savoir.
Je pense pas qu'il écoute l'émission, mais sait-on jamais, si jamais.
Un salut à Simon Stone, alors, voilà. Pour avoir essayé. Merci à vous, qui avez été les critiques de cette émission de Radio Conservatoire, Jean Minelli, Richard Le Gall et Gert van Erwijnen. Merci à Vincent Détraz, merci à Jonathan Martin, qui assure la technique de cette émission. On remercie Patricia Fèvre, Aline Jones-Gorlin, Grégory Gabriel, qui suivent la préparation, est à Claire Lane d'Arcueil, un grand merci, elle qui nous écoute toujours et qui aime la radio.